Madame bonjour, monsieur bonjour, bienvenue à Politude.
De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures, afin d'éviter les erreurs commises par le passé.
C'était le 15 août dernier, 15 août 2024. Le chef de l'État camerounais prenait la parole et se faisait le porte-voix de l'Afrique, 80 ans jour pour jour après l'historique débarquement de Provence dans le sud de la France. L'événement fait partie des temps marquants de la Deuxième Guerre mondiale. 1944, une opération militaire est portée et menée par les forces alliées. C'est le second front ouvert face à l'assaut allemand après le débarquement de Normandie quelques semaines plus tôt. Près d'un million de combattants, plus de la moitié venant du continent africain, nombreux de ces soldats ont payé de leur sang le lourd tribut de la libération. Toulon reprise, Marseille reconquise, l'opération à succès n'a duré que quelques jours. Son nom de code, Dragoon.
Politude, le débat politique du samedi midi sur le poste national de la CRTI.
Le 15 août dernier, donc, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, sous la conduite du président Paul Biya, se sont retrouvés à la nécropole de Boulouris, en Côte d'Azur, pour l'épisode 80 de l'hommage aux héros de la liberté. Aux côtés du président français Emmanuel Macron, les dirigeants issus de pays alliés dans le combat de Provence ont souligné le devoir de mémoire et l'exigence de reconnaissance suite à l'engagement à haute valeur sacrificielle des ressortissants de l'empire colonial français. Quelle est finalement l'amplitude de cet engagement? Quelle portée symbolique et politique véhicule-t-il? Les pays de l'Afrique subsaharienne, le Cameroun compris, perçoivent-ils le juste retour mérité? Quels impacts sur les relations entre la France et le continent africain? Cette solidarité jusqu'au sacrifice suprême est-elle un engagement qui traverse les décennies et les siècles? Quelle portée diplomatique et politique attribuée à la posture du chef de l'État camerounais lors de la commémoration des préoccupations et bien d'autres qui seront évoquées tout au long de cette édition de votre émission? Pour en parler, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, écrivain, enseignant, spécialiste des sciences politiques et des relations internationales. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Vous avez certainement, professeur, plus que tout autre d'ailleurs, écouté, suivi avec attention la cérémonie du 15 août dernier au nécropole de Boulouris en France. Évidemment, la prise de parole du chef de l'État camerounais avec.
Bien sûr, j'ai suivi avec grand intérêt, grande attention cette prise de parole. D'abord parce que sa prise de parole est relativement rare et elle était dense. En fait, c'était un rappel historique de la place, du rôle des troupes africaines dans le combat qui est en réalité était celui entre une certaine idée du monde, une certaine vision du monde, qui est l'inclusion, qui est la liberté, qui est la capacité d'accepter un monde diversifié, et puis l'approche allemande, Adolf Hitler, qui parlait, lui, d'un Troisième Reich, c'est-à-dire de régner sur le monde pendant 1000 ans. Donc c'était de cela qu'il s'agissait à ce moment-là, et il a rappelé, avec beaucoup de tact, je pense, qu'il ne faut pas oublier le rôle des troupes africaines, qui a été un rôle crucial et non pas marginal.
Alors, professeur, la commémoration était donc un hommage, mais aussi, il nous semble, une invite à toujours plus de marques de reconnaissance à l'endroit des forces alliées, notamment celle de l'Afrique subsaharienne. Avez-vous eu la même lecture?
Oui, bien sûr, et d'autant plus que tout se déroulait dans le sud de la France. Et il est important de dire ce qui s'est passé, parce qu'entre le 15 août et le 28 août 1944, qu'est-ce qui se passe? C'est que Toulon, tout comme Marseille plus tard, est justement délivré par des forces coalisées. Il n'y avait pas que les forces africaines non plus. C'est la 3e division d'infanterie algérienne, composée d'environ 18 000 soldats africains, qui a joué un rôle crucial dans la capture de Toulon le 28 août 1944. Ces troupes étaient aux côtés de la 1ère division blindée française et de la 9e division d'infanterie coloniale. Quand on dit infanterie coloniale, ce sont les troupes surtout d'Afrique subsaharienne, ainsi que de la 45e division d'infanterie et de la 3e division d'infanterie américaine. Donc ce sont des troupes coalisées. Et il faut, je vous dis bien, 18 000 soldats, surtout venus de l'Afrique du Nord à ce moment-là. Et c'est eux qui ont donc œuvré pour la libération de Toulon, là où se trouvait précisément le président, à côté, et puis Marseille, la plus grande ville du sud de la France. Et c'était à peu près au même moment, c'est-à-dire du 15 au 28 août 1944, que s'est effectuée la libération de ces deux villes, importantes pour la France. Donc le débarquement était à ce moment-là.
Alors, le président Paul Biya, porte-voix de l'Afrique à cette occasion, quelle portée symbolique?
Déjà, je pense une restitution de la vérité historique, qui pendant très longtemps, pour des raisons qui nous échappent, n'a pas été aussi médiatisée, aussi mise en exergue que le débarquement de Normandie, qui lui a fait l'objet même de films au niveau de Hollywood, c'est-à-dire dans les plus grandes firmes industrielles cinématographiques. Donc ça a été connu. Mais le débarquement de Provence a été moins médiatisé, mais tout aussi important, naturellement, puisqu'il a mené à la libération de la France tout entière. Il y a aussi eu d'autres campagnes qui n'ont pas été très médiatisées, comme par exemple celle de Strasbourg, du 23 novembre 1944, où les troupes africaines ont aussi joué un rôle important. Là, nous sommes en Alsace, c'est-à-dire vers le nord de la France. Donc, il est important, me semble-t-il, que l'histoire militaire parle de l'ensemble des opérations, et qu'elles ne soient pas sélectives, et qu'elles rendent hommage justement à celles et ceux qui ont versé leur sang parce qu'ils ont cru en un idéal de liberté et de, je dirais même, de démocratie. Ça, c'est important, parce que sinon, ça crée des frustrations. Et ce qui est en train de se passer maintenant est à féliciter et à encourager.
Et cela s'est ressenti dans la prise de parole du président.
Tout à fait, tout à fait. C'était l'invite, d'ailleurs, du président de la République à reconnaître tous ces sacrifices, en réalité, de l'Afrique, mais non seulement de l'Afrique, mais même de l'ensemble des troupes coalisées dans les forces alliées.
On constate également que le président français n'est pas allé à l'encontre de ce devoir
non, pas
de reconnaissance.
Du tout. Pas du tout. Et justement, cette cérémonie est une cérémonie qu'il faut saluer.
Est-ce qu'il faut, professeur, au-delà de cette reconnaissance, penser à des actions plus tangibles pour montrer que, oui, on sait que l'Afrique a joué son rôle?
Oui, la première action tangible, de mon point de vue, serait de revoir les curricula pour introduire ces épisodes à l'intérieur du déroulement de la Première Guerre mondiale, d'abord, et ensuite de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que l'Afrique a participé aux deux guerres, que ce soit les batailles de la Somme, les batailles de la Marne, qui, elles, concernent la Première Guerre mondiale, les Africains y étaient, physiquement parlant. Et rarement, on fait mention de cela. Bon, ce qui est vrai pour la Première Guerre mondiale, l'est encore plus pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que si on révisait les curricula, ce serait déjà un premier point important pour que les générations d'aujourd'hui et de demain sachent et connaissent la vraie histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Politude.
Politude. Le journal de la politique.
Madame, monsieur, vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Escale tout de suite pour l'essentiel de l'information politique. C'est avec Daniel Sopo.
Rabiatou, on ouvre l'actualité politique de cette semaine avec le retour du couple présidentiel à Yaoundé. Paul et Chantal Biya ont regagné la capitale après un séjour fructueux en Europe. Le chef de l'État et son épouse ont participé le 26 juillet dernier à l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ils ont également pris part à la commémoration le 15 août 2024 du 20e anniversaire du débarquement en province à Cannes. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a reçu en audience un envoyé spécial du président Sassou Nguesso du Congo, Ferdinand Gongo, et la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo ont échangé sur les grands enjeux qui interpellent le Cameroun et le Congo en matière d'environnement. Tous les grands cerveaux du monde réunis au Palais des Congrès de Yaoundé pour un partage de connaissances et d'expériences sur les impacts économiques et sanitaires du cerveau humain. C'est en prélude à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le premier ministre chef du gouvernement, a procédé à l'ouverture des travaux. Joseph John Gouté s'est félicité du choix porté sur le Cameroun pour abriter le premier sommet scientifique africain de haut niveau sur l'économie du cerveau. Nous l'écoutons.
Cet événement historique marque un tournant crucial, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Dans notre compréhension et notre gestion du cerveau, cet organe complexe qui nous définit et façonne notre monde. Le cerveau, cette merveille de l'évolution, est bien plus qu'un simple organe physique. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre créativité et de notre capacité d'apprentissage. C'est le berceau de notre identité, de notre culture et de notre capacité à construire un meilleur avenir. Cependant, notre cerveau est aussi fragile et vulnérable. Les défis liés aux maladies neurodégénératives, aux troubles mentaux, aux traumatismes crâniens et aux autres effets de vieillissement ne cessent de croître.
Le premier ministre chef du gouvernement a reçu successivement courant la semaine un chef de mission diplomatique et un représentant d'organisation internationale, tous deux arrivés en fin de séjour au Cameroun. Il s'agit de Martin Straub, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération helvétique et de Siaka Koulibaly, représentant résident par intérim du système des Nations Unies au Cameroun. Écoutons tour à tour ces diplomates. D'abord, Martin Straub.
C'était 3 années intéressantes ici au Cameroun. La Suisse a quand même pu faire beaucoup d'activités, aussi dans le domaine d'économie, dans le domaine culture, plusieurs autres choses où on était actifs et on a pu fortifier les relations entre les deux pays.
Nous pensons que la coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Cameroun est une coopération très fructueuse et excellente et qui nous permet vraiment d'apporter, à travers les différentes agences du système des Nations Unies, notre contribution au développement économique et social du Cameroun.
Le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique en séjour à Yaoundé s'est entretenu avec le ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela. L'entretien a porté sur les préparatifs de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OIC prévue à Yaoundé les 29 et 30 août prochains. La 5e édition de cette conférence est placé sous le thème « Développement des infrastructures de transport et de la communication, instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité » sur les grandes lignes de cet événement. Écoutons le ministre Mbela Mbela.
Les assises de Yaoundé revêtent une importance capitale. Elles offriront un cadre privilégié pour mettre en œuvre les orientations formulées lors du 15e sommet des rois et chefs d'État de l'OCI qui s'est tenu à Banjul en mai 2024. Plus concrètement, il s'agira au cours de cette rencontre d'adopter des résolutions pertinentes pour mettre en œuvre les recommandations des assises de Banjul dans les domaines politiques, économiques, humanitaires, socio-culturel, scientifique et technologique, juridictionnel ou juridique, organique et institutionnel, entre autres. Il s'agira aussi, au cours de ces travaux, d'explorer des voies et moyens pour relever
les défis auxquels l'organisation est actuellement confrontée.
Évaluation des opérations de la campagne d'identification des inscriptions sur les listes électorales, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Lom Ndjerem, le sénateur Badel Ndangandiga, tient en ce moment une réunion irrelative à la permanence du RDPC de Bertois. Identification de proximité dans la section RDPC Nyon et Foumou Nord. La deuxième phase du processus a démarré dans le centre urbain d'Ayos. L'équipe mobile de la délégation générale à la sûreté nationale, en présence du maire Paul Ndongo Bikor, conduit l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité. Cette campagne, qui s'étend sur une semaine, vise à faciliter l'inscription sur les listes électorales avant la date butoir, le 31 au prochain. À l'Est, le fichier électoral de la région s'enrichit de plus de 27 800 nouveaux inscrits, soit deux fois plus que l'année dernière. Une embellie enregistrée grâce aux efforts conjoints des partis politiques engagés sur le terrain de la sensibilisation et des populations elles-mêmes à quelques jours de la clôture des opérations. C'est avec cette information, Rabiato, que nous mettons un terme à l'actualité politique de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain.
Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation.
Merci d'être à l'écoute, mesdames, messieurs de Politude. Invité le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il est écrivain, il est enseignant, spécialiste des sciences politiques et des relations internationales. Professeur, on l'évoquait tout à l'heure, l'engagement africain n'était nullement un engagement symbolique.
Non, pas du tout. Il était un engagement important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez de manière globale, l'Afrique du Nord a envoyé en tout, pour la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, à peu près 233 000 troupes. 233 000. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, donc en dessous du désert du Sahara, vous aviez plus de 200 000 troupes. Ce qui fait donc en tout plus de 500 000 troupes, un demi-million. Mais à ça, il faut aussi ajouter maintenant l'Afrique britannique, ce qu'on appelait les East African Rifles, qui étaient donc l'Afrique de l'Est, Ouganda, Tanzanie et Kenya. Eux, ils ont fourni 375 000 troupes qui sont déployées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous ajoutez tout ça l'un dans l'autre, la contribution africaine en termes de troupes était plus de 1 million de soldats. Donc ce n'est pas rien, à l'époque en particulier.
Évidemment, avec du sang versé.
Bien entendu.
Perdu.
Bien entendu. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus à la base. Beaucoup d'entre eux. Et c'est pour ça qu'il faut magnifier cela, le reconnaître et avoir une attitude plutôt de reconnaissance vis-à-vis de ces vies perdues pour des causes qui sont des causes quand même après tout humanitaires. Hein, c'est pour un meilleur monde. Mais la moindre des choses, c'est quand même de reconnaître ce qui s'est passé et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant.
De votre expertise, professeur, comment vous percevez l'état d'esprit de ces soldats de Provence? Est-ce que ce sont des soldats satisfaits? Est-ce que ce sont des soldats qui gardent quand même une pointe de pas tout à fait satisfaits?
La vérité, c'est que beaucoup d'entre eux ont été formés rapidement et ont été envoyés au front.
Pour les besoins de la cause.
Voilà, ont été envoyés au front. C'est pas des soldats de métier dans le sens où ils sont allés dans des écoles militaires, où ils ont suivi toutes les étapes de formation militaire, à l'issue desquelles on les a envoyés au front. Je pense qu'ils ont été formés un peu à la hâte pour des besoins de la cause, parce que justement, il y avait un manque de soldats sur le terrain, et en infanterie en particulier, c'est-à-dire des hommes de troupes. Et c'est pour ça qu'ils ont été envoyés. Et les choses se sont passées à peu près correctement, mais à la fin, il y a eu beaucoup de ressentiments et beaucoup de frustrations. Bien sûr, on peut rappeler encore le camp de Tiayor, où ils ont été fusillés pour avoir demandé simplement leur pension, comme les autres. Ça, c'est au Sénégal. D'ailleurs, même on appelait les troupes des tirailleurs sénégalais. Ça ne veut pas dire que c'était des Sénégalais. Ça voulait dire que c'était des troupes d'Afrique subsaharienne, qui incluaient des nationalités ou des personnes venant de territoires différents. C'était juste un générique comme ça, bon, qui était un peu curieux. On parlait des tirailleurs sénégalais. Alors, il y avait quand même une frustration au retour parce que on sentait quand même que ce qu'ils avaient contribué n'était pas à la hauteur de la reconnaissance à laquelle ils pensaient avoir droit. Et donc, à la fin, ça crée un problème. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux tard que jamais. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je crois que ce qui se passe, le discours du 80e anniversaire, peut être considéré précisément comme une réhabilitation, mais on peut aller encore plus loin.
Comme un point de départ.
Voilà, finalement. Et de reconnaissance, de réhabilitation, on peut encore aller plus loin, surtout sur le plan symbolique, parce qu'aujourd'hui, c'est la réhabilitation symbolique qui importe davantage.
Et cet événement, justement, consacre également un esprit de solidarité entre les deux blocs. Est-ce que, professeur, la réciprocité que l'on souhaiterait voir, peut-être, ne serait pas de mise ? D'autant plus qu'on parle d'un nouveau départ, peut-être d'une avancée considérable ou perceptible déjà de cette reconnaissance.
Vous savez que le futur est tributaire du passé. Et c'est en cela que ce qui se passe aujourd'hui préfigure des lendemains différents. Une fois qu'on reconnaît que les Africains n'ont pas simplement été des immigrants qu'on voit aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de visa pour aller au combat. Et on est quand même venu chercher les Africains en Afrique. Ils ne se sont pas proposés eux-mêmes pour y aller. Donc il faut aussi reconnaître comment les choses se sont passées dans l'histoire. Et là, on reconnaît quand même que la contribution africaine, elle a été une contribution importante. On parle des milliers de troupes, on ne parle pas des centaines. Et sans ces troupes-là, comme l'a dit le chef de l'État, la victoire n'aurait pas été considérée comme possible. Donc ils ont eu un coup de pouce des troupes africaines. Je parle nord-africaine comme subsaharienne, et qui a été d'un apport au moment précis où on en avait le plus besoin. Donc je crois que c'est ça aussi, le moment M. Pas M-1, pas M+1, mais au moment M, les troupes africaines ont été celles qui ont apporté le surplus dont on avait besoin. Donc je crois que ça c'est important. Et de tenter d'effacer ça de l'histoire, comme l'ont fait certains historiens un peu véreux, un peu dubitatifs, c'est pas une bonne chose. Et j'ai proposé que dans les curricula, qu'on introduise de manière officielle, de manière chiffrée, puisque nous avons les dates, nous avons les divisions blindées ou les divisions, les structures militaires qui ont participé à cela, l'infanterie, l'armée de l'air et tout ça. Tout cela, nous avons ces précisions et je pense qu'il est bon de les apporter dans le roman ou dans le récit, dans le narratif de la Deuxième Guerre mondiale.
Au-delà de cette reconnaissance à travers les enseignements, comment la matérialiser véritablement? Quelles sont les pistes de possibilités?
Vous savez, le problème, c'est que la plupart des acteurs ne sont plus là.
Bientôt un siècle.
Il n'y a plus que peut-être le souvenir de leur famille. Et encore, je ne suis pas persuadé qu'on puisse... Combien vaut une vie humaine? Ce n'est pas possible de le dire. Combien vaut une vie humaine? Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas chiffrable. C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle surtout d'une reconnaissance réelle, d'abord au niveau symbolique. Il faut d'abord savoir qu'il y a eu des sacrifices qui ont été lourds de part et d'autre. Et les Français ont payé eux-mêmes d'un lourd tribut, mais nous avons payé également d'un lourd tribut la libération de l'Europe même, pas seulement de la France, mais de l'Europe. Donc il y a eu aussi des combats sur le théâtre asiatique, et ça, ce n'est pas très connu. Hein. En Birmanie, il y a eu ce qu'on appelait la campagne de Birmanie 1944-1945, où la 11e et la 81e division d'Afrique de l'Est a participé contre les Japonais en Birmanie. Vous voyez, là nous ne sommes plus dans le cadre de la France, mais dans le cadre de la Grande-Bretagne. Donc les Africains se sont déployés vraiment sur l'ensemble du globe terrestre. Et ça doit être reconnu. On ne peut pas continuer à faire comme si ça n'a pas existé, comme si ces vies n'ont pas été justement données sur l'autel de l'humanité. Je crois que ça c'est important. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est un début, mais il vaut mieux tard que jamais.
Vous voyez quoi devant?
D'abord, quand les Africains aujourd'hui parlent de l'importance de la justice et de l'équité sur le plan économique, ce que les Africains demandent aujourd'hui, c'est qu'on achète les produits à leur juste prix. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine, ce n'est pas le favoritisme, mais c'est simplement le réalisme. Et c'est ce réalisme qui va réhabiliter, en fait, qui va créer des emplois. Beaucoup d'Africains ne veulent pas partir d'Afrique. Ils partent d'Afrique souvent par dépit. Donc, ils veulent rester chez eux, mais trouver des emplois chez eux, c'est-à-dire le processus d'industrialisation doit se faire à partir de l'Afrique. Et c'est ça qui va créer des emplois. C'est ça qui va faire qu'il y ait une sorte de, je dirais, de fierté d'être en Afrique, de produire et de contribuer à la marche du monde sur le plan technologique, sur le plan de la connaissance et sur le plan justement de la plus-value qui viennent d'Afrique. Et je crois que c'est ça qu'aujourd'hui, ça peut se traduire en cela aussi.
Ça, c'est une volonté, mais est-ce que dans les faits, c'est réaliste pour le moment ?
Vous savez, tout commence toujours par une pensée. C'est la pensée qui précède l'action. Et une fois que les esprits sont préparés à accepter la nouvelle donne, l'action suit ce changement de mentalité.
Est-ce que l'Occident est prêt ?
L'Occident devra être prêt. Parce que, quand vous prenez même la démographie est davantage en faveur de l'Afrique aujourd'hui que des autres continents. Donc, nous avons intérêt à viabiliser l'Afrique en Afrique. Nous avons intérêt à faire en sorte que les Africains puissent vivre mieux chez eux. Nous avons intérêt à faire en sorte que même l'histoire de l'Afrique soit restituée à la vraie hauteur de ce qui s'est réellement passé. Et là, on comprendra que l'Afrique a été la première terre humaine. Donc, par conséquent, celle qui a connu la plus grande expérience de la vie humaine sur Terre. Tout ceci doit être restitué. Non pas contre les autres, non pas dans un esprit belliciste, dans un esprit antagoniste, non. Nous devons justement prôner la coopération et prôner la compréhension humaine, parce que nous sommes les plus vieux habitants et nous avons donc le devoir de nous assurer que l'humanité reste toujours au niveau de l'Afrique comme étant exemplaire.
On parlait de ça, la matérialisation ferme et supplémentaire, au-delà de l'existence, de cette reconnaissance revendiquée. L'Afrique, on le sait, est en proie à des guerres, à des conflits. Est-ce que ça ne pourrait pas être un couloir également pour davantage concrétiser cet élan de solidarité internationale ?
Bon, ces guerres et ces conflits, quelle en est la cause ? C'est ça la question. Est-ce que ça a trait à des questions purement africaines ? Est-ce que ça a trait à des conflits endogènes à l'Afrique ? On peut se poser la question. La plupart du temps, c'est des conflits qui ont trait à la religion, qui ont trait à la politique, qui ont trait... Est-ce que ce sont des religions endogènes à l'Afrique ? On peut se poser ces questions. La réponse est non. Est-ce que ça a trait à des systèmes politiques purement africains ? La réponse est non. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir relativiser les choses. Épouser la marche du monde, être en phase avec cette marche, mais aussi ne plus laisser le substrat africain prendre comme base, comme fondation, d'abord nous-mêmes. Et je crois que c'est comme ça qu'on va évoluer, en étant d'abord en relation avec nous-mêmes, en étant en réconciliation avec nous-mêmes, en sachant qui nous sommes et ce que nous apportons au reste du monde à partir de notre spécificité africaine. Ça a toujours été mon point de vue, que nous ne pouvons pas amener quelque chose au monde si nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne pouvons pas amener une plus-value au monde si nous n'avons pas d'abord fait l'inventaire de ce que nous pouvons nous-mêmes apporter. Et je crois que c'est ça qui va faire que le monde est intéressant, c'est cette variété, c'est cette diversité qui fait qu'il vaut la peine d'être sur la planète aujourd'hui. Si tout le monde était pareil, le monde serait un endroit extrêmement ennuyeux.
Quelle clé pour intégrer les réalités que vous évoquez, professeur ?
D'abord, c'est l'ouverture. Et ensuite, c'est l'humilité. Je pense qu'il faut que toutes les civilisations au monde soient humbles. Il ne faut pas qu'on adopte des postures où les uns savent tout et les autres ne savent rien. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas acceptable. Il faut qu'on sache que chacune des civilisations, chacun des continents a quelque chose à apporter à l'ensemble de l'humanité. Une fois qu'on est dans cette posture, on est dans une posture d'ouverture, où on peut écouter l'autre pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un être humain. Et je pense que cette humilité manque beaucoup. Il y a des gens qui viennent donner des leçons aux autres parce qu'ils savent tout, parce que ils n'ont rien à apprendre des autres. Eh bien, c'est des postures qui sont des postures qui sont capables de générer des conflits, des guerres, voire même des catastrophes. Donc cette humilité, elle est importante de savoir que tout être humain, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, a quelque chose à apporter à l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on est ouvert pour s'améliorer, et on voit en l'autre une opportunité d'enrichissement et non d'appauvrissement.
Politude sur le poste national de la CRTV.
Professeur Jean-Emmanuel Pondy, à vous écouter, on a l'impression que l'Afrique n'est pas évalué, n'est pas jugé selon sa valeur réelle, ou alors est sous-évalué?
Je commencerai par dire que les Africains se sous-évaluent eux-mêmes. Je n'ai pas tellement de raison de penser d'abord que ce soit les autres qu'il faut mettre en cause.
Parce que j'allais demander, professeur, si ce n'est pas un problème qui crée l'autre.
Oui, tant que vous avez un complexe d'infériorité, vous n'êtes pas en mesure d'affronter les autres sur un même pied d'égalité. Je pense que l'Afrique n'a aucun complexe d'infériorité à avoir au vu de sa chronologie. Nous regardons, quand vous allez sur la vallée du Rift, vous voyez très bien que c'est là où reposent les plus vieux ossements humains. Donc, la dorsale Éthiopie-Kenya, c'est là où on retrouve les plus vieux ossements humains. Bon. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de complexe à avoir, puisque nous sommes, en fait, ceux vers qui on doit venir pour savoir comment se passaient les choses avant. Encore faut-il pouvoir assumer cette responsabilité, qui est une responsabilité lourde. Il faut pouvoir l'assumer. Donc, avec sérieux, avec efficacité, mais aussi avec préparation. Qu'est-ce que nous enseignons à nos jeunes, à nos enfants par rapport à ça? Pas grand-chose. Et justement, ce vide crée la naissance d'un ensemble de fantasmes imaginés sur l'Afrique qui n'existent pas. La vraie histoire de l'Afrique, mais c'est nous qui devons l'écrire, parce que c'est nous qu'elle regarde d'abord. Les autres viendront l'écrire après, mais nous devons de l'écrire. Et c'est là le vrai problème que nous avons aujourd'hui. C'est que nous partons d'une histoire qui est tronquée. C'est toujours l'histoire des vainqueurs qui est l'histoire qui reste. Mais il faut la rectifier, il faut la réajuster, il faut la mettre à son véritable niveau.
Pourtant, on a envie d'être légèrement optimiste, professeur, pour dire que la marche est engagée.
Il faut être optimiste.
Elle est lente, cette marche?
Elle est lente, mais par rapport à quoi? Tout dépend du référent qui est le vôtre. Nous sommes là dans des centaines de milliers d'années, voire même des millions d'années. Donc, qu'est-ce qui est lent, qu'est-ce qui est rapide? Tout est relatif. Moi, je pense que la chronologie de l'évolution humaine dira, finalement, que nous ne sommes que de passage, nous tous. Et nous nous enfilons d'après les siècles, d'après les générations. Mais en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comprendre que chacun a sa place dans le monde. Et nous, en tant qu'Africains, nous comprenons cela parce que la philosophie africaine est une philosophie de la complémentarité avec la nature et non de l'opposition par rapport à la nature. La philosophie africaine voit la nature comme un allié, un complice, qui doit travailler avec nous et avec qui nous devons compter. Ailleurs, on considère la nature comme étant à dompter, à acquérir et à sublimer. Nous n'avons pas cette manière de voir le monde. Et je crois que c'est très important de voir la nature comme complémentaire de nous. Nous faisons partie d'elle, nous ne sommes pas contre elle. Et ça participe justement de la manière dont les Africains abordent le monde et abordent aussi l'autre être humain. Nous avons toujours été ouverts vis-à-vis des autres. Quelquefois, ils ont abusé de cette ouverture, de cette magnanimité et de cette générosité qui est en fait dans l'ADN de l'Afrique. Bon, quelquefois c'est bien, mais d'autres fois ça nous a porté un lourd préjudice.
Pour rétablir l'équilibre, faut-il un déclic ou un processus?
Je pense les deux. Un déclic au départ et un processus ensuite. Vous savez, si aujourd'hui on constate qu'il y a des continents qui vont rapidement, c'est parce qu'ils sont d'abord ancrés dans leur propre être. C'est ça qui est important. Quand vous regardez et vous essayez de comprendre qui vous êtes, c'est une démarche extrêmement importante. Pas contre les autres, je répète, mais plutôt pour arriver vers les autres en étant soi-même. C'est ça qui est le plus important.
Alors, on va revenir effectivement sur le principe de reconnaissance du rôle joué par l'Afrique dans les débarquements, notamment celui de Provence dont on parle aujourd'hui. On sait par exemple que le général Leclerc, tout un lycée mythique du Cameroun, porte son nom. Est-ce que c'est les mêmes référents qu'on peut retrouver du côté notamment de la France?
Bon, pour ce qui concerne le débarquement de Provence, il était sous le commandement du général Jean de Lattre de Tassigny. C'est lui qui était responsable des opérations à ce niveau-là. Maintenant, le général de Clerc, c'est plutôt la colonne de Clerc qui est partie de Douala, c'est-à-dire du Cameroun, et qui est remontée vers toute l'Afrique, en passant par l'Afrique du Nord, et qui est arrivée vers le sud de la France, et qui est arrivée en France. Oui, c'est vrai. Et ce, dès 1940... Je pense que c'est dès 1940 que le Cameroun a rallié la cause du général de Gaulle, alors que d'autres, justement, doutaient du même général de Gaulle, et d'ailleurs même d'autres qui s'opposent à lui. Donc nous avons, à ce moment-là, dès 1940, rejoint les troupes, et le bras droit du général de Gaulle était précisément le général Leclerc.
Est-ce que des symboles, des icônes, est-ce qu'il y a des signes palpables et tangibles qui montrent quand même que oui, l'Afrique a apporté sa pierre, mais considérable, à ce combat?
Bon, je pense que ce que nous devons retenir, ou ce que nous devrions retenir, c'est que l'histoire est une réalité qui est vérifiable et qui se déroule d'elle-même. C'est-à-dire que nous devons regarder, consulter les dates, consulter les lieux, consulter les êtres humains qui ont participé à tous ces scénarios. Je crois que c'est de ça qu'on doit d'abord se contenter. Maintenant, les reconnaissances ou les non-reconnaissances, c'est subjectif. Ça peut être fait comme ça peut ne pas être fait, mais ce qui a eu lieu, de manière incontestable. Et c'est ça que nous devons restituer, nous. Et la grandeur de ce qui a eu lieu va maintenant conditionner notre attitude vis-à-vis de ces faits-là. Mais ce sont ces faits qui font reconstituer et qui, pour l'instant, restent encore à reconstituer dans leur entièreté, puisqu'ils ne sont pas enseignés. Et je pense que c'est le premier combat qu'il faut faire, c'est de les restituer, de les enseigner.
En Afrique, Africains.
Pas seulement
pas
en Afrique.
Des Africains.
Non, pas seulement en Afrique. En Afrique et en Europe, et en Occident, et en Amérique. Parce que justement, les Américains, pendant très longtemps, il y a eu des divisions africaines-américaines, qui n'ont même pas été reconnues à l'époque, pourtant qui étaient dans l'armée de l'air américaine. Et c'est tout ça qu'il faut reconstituer pour avoir la vraie histoire. Et une fois que c'est fait, maintenant, l'appréciation de cette histoire est une deuxième étape. Mais il faut déjà que les faits soient reconstitués dans leur entièreté.
Et vous pensez qu'on est sur la bonne voie ?
Je pense que c'est ce que nous vivons là est un début. Et d'ailleurs, même je crois que le président, il est revenu là-dessus, sur l'importance de ne pas méconnaître l'histoire, de la sublimer et de l'apprendre avec l'importance qu'elle a.
Alors, professeur, est-ce que cette participation des Africains a une répercussion perceptible sur la structuration des organisations internationales?
Oui, il est évident quand même qu'il y a un lien entre la naissance des Nations Unies, qui a eu lieu le 24 octobre 1945, formellement, à New York, mais avant ça, en avril 1945 aussi, à San Francisco, c'est pour ça qu'on parle de la charte de San Francisco, eh bien, on regarde la philosophie des Nations Unies, on regarde la structure des Nations Unies, on regarde la manière dont les Nations Unies ont fonctionné dès leur départ, on voit très bien que l'impact de cette contribution des États non occidentaux, des peuples non occidentaux, a été pris en considération. Et quand vous voyez bien, il y a eu la nouveauté qu'apportent les Nations Unies, c'est l'autodétermination des peuples. Ça, vous ne retrouvez pas ça dans le pacte de la Société des Nations, avant lui, donc qui était lui issu de la Première Guerre mondiale, donc le traité de Versailles de 1919, du 27 juillet 1919. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une différence. Dans le pacte de la Société des Nations, on parle des peuples civilisés et des peuples non civilisés. Ben, il n'y a rien de cela dans la Charte des Nations Unies, qui reconnaît maintenant la pluralité des civilisations, la pluralité des peuples comme étant appelés à travailler ensemble. Et quand vous regardez bien, vous voyez que l'Afrique a beaucoup utilisé cette autodétermination des peuples pour justement faire avancer la cause de ses indépendances.
C'est ce qu'on entend concrètement pour le Camerounais lambda, c'est quoi l'autodétermination des peuples?
C'est-à-dire que c'est un droit pour les peuples d'être libres et de se gérer par eux-mêmes et selon leurs propres principes. C'est ça l'autodétermination des peuples. Et c'est l'idéologie des Nations Unies qui va mettre cela en avant dans le monde. Et c'est la grande différence entre les Nations Unies et la Société des Nations, qui prônait l'idée qu'il y a des peuples éclairés qui sont amener d'autres peuples qui sont dans l'obscurité vers leur émancipation. Cette mentalité ne se retrouve pas du tout dans le système des Nations Unies. Pour ce qui est du Cameroun, bien sûr, le Cameroun est une pupille des Nations Unies. Et comme vous le savez également, dans cette situation se trouvaient le Togo, le Tanganyika, la Rhodésie du Nord, c'est-à-dire la Namibie, et puis nous. Donc nous avons bénéficié de cette clause particulière et nous avons vu comment ce sont les Nations Unies qui ont déclaré l'indépendance du Cameroun, par exemple. Et comme ils l'ont également fait au Tanganyika. Et c'est bien les Nations Unies qui ont déclaré l'indépendance à la fois le 1er janvier 1960 et le 1er octobre 1961. C'était les Nations Unies.
Et on continue encore à ressentir les effets aujourd'hui de ce statut de pupille des Nations Unies.
Voilà, bon, en fait, la manière dont les relations internationales sont structurées avec des organisations non gouvernementales et des organisations gouvernementales. Donc, le plus abouti des exemples en termes d'organisation gouvernementale, c'est bien sûr les Nations Unies.
Et à l'intérieur, on constate effectivement, vous l'avez dit, de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies, un pas de géant a été franchi. Mais il reste encore probablement des choses que les Africains souhaiteraient voir mieux mises en route ou mieux implémentées.
Bien sûr, il y a beaucoup d'aménagements et de réajustements à faire. Même au niveau des Nations Unies, tout n'est pas parfait. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aujourd'hui, les Nations Unies sont confrontées à beaucoup de défis, notamment que la guerre continue, elle est perpétuée. Et pour ce qui est de l'Afrique, il est à déplorer que la toute première opération des Nations Unies en Afrique, en termes de maintien de la paix, a été au Congo. C'était l'ONUC. 1960, l'ONUC, l'opération des Nations Unies au Congo. Et malheureusement, aujourd'hui, les Nations Unies sont toujours au Congo, malgré un interlude d'une vingtaine d'années sous le régime du président Mobutu, où ils n'étaient plus présents. Mais après ça, ils sont revenus. Donc ça veut dire quand même qu'on fait un peu des surplaces. Il faut le reconnaître et il faut chercher peut-être la raison. Pour ma part, je pense qu'il faut injecter aussi la manière de résoudre les conflits en Afrique.
Il y en a.
Oui, nous avons beaucoup de façons de résoudre nos conflits, mais qui ne sont jamais injectés, qui ne sont jamais mis en avant. Et nous avons toujours une approche un peu trop technique, un peu trop juridique, un peu trop légaliste, qui peut-être fait en sorte que la profondeur même du processus de règlement de conflit est mise de côté par rapport à ce que nous recherchons comme objectif.
J'allais demander au détriment de quelle approche?
Vous savez, par exemple, à la fin de la guerre du génocide rwandais, c'est-à-dire en 1994, ce qui a résolu ce problème, ça a été l'approche de la gachacha, c'est-à-dire l'approche traditionnelle rwandaise. C'est ça qui a fait que on a trouvé une solution. Parce que si on procédait selon la manière occidentale, ça prenait deux siècles, 200 ans pour le faire, tellement il y avait des cas. Donc là encore, je pense que on peut faire une sorte de symbiose, entre notre façon de faire et la façon plus juridique de faire. Il faut pour cela travailler des formules qui soient plus adaptées à notre compréhension, je dirais, ancestrale. Parce que dans la résolution des conflits en Afrique, les ancêtres, la tradition, la manière de faire, c'est fondamental. Si vous mettez ça de côté, vous passez à côté d'un certain nombre de résultats majeurs. C'est un peu ce qu'on voit.
Et pour nous, ça pourrait être la formule gagnante.
Oui, il faudrait qu'on se mette au travail et qu'on voit comment créer des formules hybrides, ce que j'appelle moi des formules hybrides, c'est-à-dire à la fois ce qu'on croit être la manière moderne, parce que moi je n'aime pas tellement opposer la modernité à ce qui est africain étant traditionnel. Non, je pense que ce qui est africain, c'est nous-mêmes. Et nous avons une modernité africaine aussi que nous devons développer. Et je pense que quand nous mettons les deux ensemble, là on arrive à des processus qui font sens dans le contexte de notre culture. Et c'est le contexte de la culture qui pérennise la résolution des conflits. C'est-à-dire que si vous n'introduisez pas la dimension anthropologique, la dimension culturelle, la dimension civilisationnelle dans les résolutions de conflits, vous n'allez pas résoudre un conflit de manière pérenne. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ils reviennent toujours et encore, parce que justement, ils sont superficiels. Les approches que nous voyons sont manifestement superficielles, parce qu'elles n'arrivent pas à résoudre le fond du problème.
Professeur Jean-Emmanuel Pondier, merci d'avoir apporté de votre expertise à cette édition de Politude.
C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
Politude de ce samedi 24 août 2024 qui s'achève avec en prise de son et post-production Yannick Ayama, mise en onde, Patrice Bikim, réalisation, Daniel Sopo, Rabia Toufoudaoutou à ce micro, madame, monsieur. Merci d'avoir été à l'écoute.